Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h41 sur RMC.
RMC. L'interview.
Bonjour Didier Lesky.
Bonjour.
Bienvenue sur RMC. Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en première ligne, donc notamment sur l'accueil des réfugiés ukrainiens. Plus de 100 000 Ukrainiens ont fui les combats et sont désormais arrivés en France. Est-ce que les arrivées continuent encore aujourd'hui avec les combats de plus en plus violents dans l'Est ?
Alors les arrivées continuent, mais très faiblement. En réalité, dans toute l'Europe, on a une situation un peu particulière, puisque on a à peu près autant d'entrées que de sorties, et ça se matérialise aussi en France, où on a des personnes qui retournent. La question pour nous est de savoir si elles retournent définitivement, où elles vont, puisque ce sont essentiellement des femmes avec enfants, voir où en sont leurs maris, leurs pères, leurs frères. Voilà, c'est une situation très mouvante, en fait, ces déplacés ukrainiens.
Situation très, très mouvante, mais on a passé donc ce cap de 100 000 réfugiés ukrainiens accueillis en France.
100 000 bénéficiaires de l'allocation pour demandeurs d'asile, qui est à peu près ce qui nous permet d'avoir une vision assez objective, puisque justement, il faut tenir compte de ces déplacements.
Quelle est leur situation aujourd'hui ? Où se trouvent-ils ? Est-ce qu'ils sont bien logés ?
Alors, ils se trouvent d'abord dans la région Île-de-France, et puis après, en Provence, Alpes-Côte d'Azur, enfin en Rhône-Alpes, on en trouve à peu près dans toute la France. Un peu moins de la moitié des personnes est logée dans des structures ad hoc mises en place avec l'aide des collectivités locales, supervisées par les préfets. On a à peu près 20 000 personnes qui sont chez des particuliers avec un suivi associatif, puisque l'élan de générosité a été extrêmement fort, mais il a fallu vérifier les offres d'hébergement. Et puis on a des personnes qui sont hébergés chez des proches qui étaient déjà en France, puisqu'on avait en France une communauté ukrainienne d'à peu près 40 000 personnes. Voilà, on est dans une situation très disparate.
Il y a un certain nombre de ces Ukrainiens qui ont donc été accueillis par des familles françaises à la maison. Il y a des hébergements provisoires, vous le disiez. Le problème, c'est qu'on voit bien que maintenant, la guerre est en train de durer, qu'elle va continuer, cette guerre. Est-ce qu'il faut désormais se dire qu'il faut préparer le durable avec ces réfugiés, des hébergements plus durables que ce qui a été trouvé de façon provisoire ?
Écoutez, bien sûr, il faut préparer des choses plus durables. La question aussi, c'est de prendre en compte l'état psychologique des personnes. Tout le monde souhaite que la guerre s'arrête au plus tôt et si vous voulez, l'idée de s'installer durablement pour ces femmes et ces enfants en particulier, puisqu'ils constituent près de 80% des personnes qui sont là, eh bien, ça serait aussi accepter cette idée que la guerre ne se terminera pas et que les Russes, d'une certaine manière, l'auraient gagné. Et donc, c'est pour ça que la situation est un peu complexe. Je vous prends un autre exemple. Nous proposons aujourd'hui des cours de français pour ces Ukrainiens. Ouais. Nous avons 1200 personnes qui se sont inscrites à ces cours. Or, on sait que le français, c'est le préalable, par exemple, à la possibilité d'accéder au travail.
Ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément dans un état d'esprit d'intégration ? Pas encore ?
Non, c'est pas le bon terme, parce qu'on est dans une situation qui est très différente des Soudanais ou des Syriens ou même des Afghans. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ne fuient pas leur gouvernement. Elles fuient une situation de guerre avec un gouvernement qui résiste et qui a même remporté des victoires. C'est-à-dire que dans la région de Kiev, vous n'avez plus de Russes. Et c'est pour ça qu'on a eu un mouvement de retour très important dans toute l'Europe, et ça concerne aussi la France, d'Ukrainiens qui sont retournés dans la région de Kiev.
Il n'y avait que 18 000 enfants scolarisés dans les écoles françaises, 18 000 enfants ukrainiens. Ils vont être plus nombreux à la rentrée ?
Alors, en tout cas, on se prépare à ce qu'ils soient plus nombreux, mais nous, là encore, nous sommes dans une situation qui est incertaine. Et par ailleurs, ces enfants ukrainiens, ils suivaient pour beaucoup d'entre eux un double cursus. C'est-à-dire qu'ils étaient scolarisés en France, puisque vous savez qu'il y a une obligation de scolarisation pour tous les enfants au-dessus de 3 ans. Mais en même temps, beaucoup d'entre eux suivent des cours par correspondance avec leurs enseignants, des cours dématérialisés.
Est-ce que ces Ukrainiens qui sont désormais en France peuvent travailler et est-ce qu'ils travaillent ?
Alors, on a à peu près 10 000 personnes, semble-t-il, qui ont accédé à un travail, beaucoup dans la restauration. Le problème, c'est la barrière de la langue, et puis aussi les gardes d'enfants. C'est plus complexe, mais on en a qui travaillent. Mais la question première, c'est la langue.
Pour vous, la France a été à la hauteur de l'accueil de ces réfugiés ?
Je crois qu'elle a été à la hauteur, d'autant qu'en même temps, nous avons réussi à maintenir une capacité d'accueil pour les demandeurs d'asile. C'était ça qui était important. Nous ne voulions pas, avec l'obligation que nous avions de prendre en charge ces déplacés ukrainiens, en même temps emboliser le dispositif national d'accueil, puisque par exemple, nous avons continué à héberger des demandeurs d'asile afghans, par exemple, puisque la France est aujourd'hui le deuxième pays de l'accueil des demandeurs d'asile afghans.
Mais justement, Didier Leschi, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pointent, et beaucoup d'associations le font, pointent un deux poids, deux mesures, estimant que ce que nous avons fait pour les Ukrainiens, en débloquant tout de suite notamment des hébergements, des places, ce que nous faisons pour les Ukrainiens, nous ne le faisons pas pour d'autres nationalités, et notamment pour les Afghans.
Ce n'est pas exact, puisque justement, je vous indique que le choix qui a été fait dans un premier temps est de ne pas utiliser le dispositif national d'accueil pour les demandeurs d'asile, pour continuer justement à recevoir les Afghans et d'autres nationalités. Et je remarque que les débats sont un peu ambigus. À un moment donné, on nous dit « mais vous ne prenez pas en compte la situation des familles qui hébergent et donc il faut que vous trouviez des solutions » pour soulager les familles, et puis à d'autres moments, on dit ben, « vous en faites plus pour les Ukrainiens que pour d'autres ». La situation est complexe, voilà, et nous essayons de faire au mieux. Hein. Nous avons d'un coup réussi, grâce aussi à la solidarité nationale, à la solidarité des communes, à héberger des dizaines de milliers de personnes qui n'étaient pas attendues, puisque tout le monde a été surpris par l'offensive russe le 24 février dernier.
Didier Leschi, je voudrais qu'on dise un mot d'un sujet qui est revenu dans l'actualité ces derniers jours, le sujet des reconduites à la frontière des déboutés du droit d'asile, des étrangers en situation irrégulière. Le ministre de l'Intérieur veut lever tout ce qui freine les reconductions, puisqu'aujourd'hui, à peine 30% des décisions d'expulsion sont appliquées. Qu'est-ce qui pose le plus de problèmes ? Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive toujours pas à appliquer ces décisions d'expulsion ?
Alors, on y arrive difficilement, même si un effort a été en particulier fait pour les sortants de prison, comme l'a indiqué le ministre de l'Intérieur. Mais la difficulté première, c'est ce qu'on appelle la délivrance des laissez-passer consulaires, c'est-à-dire le fait que les personnes soient autorisées par leur pays de nationalité voyager jusque dans ce pays, alors qu'elles n'ont plus de passeport. Et c'est une des difficultés majeures que nous avons depuis
ça veut dire que quand le ministre de l'Intérieur dit « on veut lever tous les freins » et cite le fait que les personnes soient arrivées très jeunes en France ou soient mariées, ce ne sont pas les freins principaux. Ça n'est pas le cœur du problème pour vous.
Ça peut être un problème, en particulier pour les personnes qui ont été délinquantes ou sont sortants de prison. C'est ça la préoccupation première du ministre de l'Intérieur. En ce sens-là, il a raison de souligner que cette difficulté, même si elle n'est pas massive, du point de vue de l'ordre public, elle est importante. Mais sur le plan, je dirais, de la masse, eh bien, notre difficulté, c'est effectivement de reprendre les discussions avec les États d'origine, et c'est ce qui a été fait depuis plusieurs mois, en particulier en mettant en avant le fait qu'on diminuait la délivrance des visas pour ces pays, bien pour qu'ils reprennent les personnes qui n'ont plus de séjour en France ou qui ne sont pas admises au séjour.
La difficulté principale, effectivement, de convaincre les pays étrangers de reprendre leurs ressortissants. Il y a un autre sujet qui intéresse beaucoup nos auditeurs et notamment les agriculteurs. On parle énormément du manque de main-d'œuvre dans certains métiers. Il est particulièrement criant pour les saisonniers, pour les ouvriers agricoles, pour la cueillette, pour les vendanges. Est-ce que comment sont organisées les choses pour faire venir des travailleurs de l'étranger ? Alors, ces saisonniers sont essentiels dans certains secteurs.
Alors, les saisonniers, on n'a jamais eu autant de saisonniers en France que cette année. Hein, à partir du Maroc en particulier, on a fait en 6 mois, beaucoup plus qu'en 2021 en termes de chiffres, plus de 12 000 saisonniers. Voilà, et les saisonniers continuent, mais je pense que ce qui est important aussi, c'est que les filières s'organisent sur le long terme. Je rappelle justement que nous avons beaucoup de personnes qui ont obtenu le statut de réfugié, entre 20 et 30 000 tous les ans depuis 2015, que ces personnes, il faut les accompagner justement pour devenir autonome et pour travailler, pour être utile à l'ensemble de la société française et en particulier de son économie. Et donc, il faut mettre en place des formations puisque les saisonniers sont des personnes qui souvent sont formées à faire de la cueillette, mais je pense que si elles ne suffisent pas, il faut aussi réfléchir avec les filières, avec le ministère de l'Agriculture, le ministère du Travail, les filières professionnelles, pour prendre en charge ceux qui sont déjà là, pour qu'ils soient utiles à l'économie.
Et pour les orienter vers les métiers qui manquent de main-d'œuvre. Merci.
Bien sûr.
Merci beaucoup. Merci Didier Leschi d'être venu ce matin sur RMC.